Le voyage d'un homme heureux, deuxième partie. Et maintenant que nous voilà sur la grande route, allons plus vite. Arles n'est pas loin. Saluez cette charmante ville, et cependant ne craignez rien. Je ne vous mène pas aux arènes, à ces arènes plus belles et mieux conservées, s'il est possible, que les arènes de Nîmes, et surtout silencieuses et désertes. Je n'ai rien à vous dire du théâtre où se représentaient les comédies de Plaute et de Terence, spectacle le plus digne d'une nation policée que tous les combats de gladiateurs. Je laisse de côté l'art gothique, les tombeaux des saints et des martyrs, et l'admirable tête de Diane et la tête d'Auguste. Je ne suis pas un antiquaire, je ne veux pas l'être. C'est le plus pénible des métiers pour l'écrivain, d'abord pour le lecteur ensuite. Mais cependant, venez avec moi, nous allons entrer, s'il vous plaît, dans le cloître de Sainte-Trophime. Et vous l'avez vu, madame, par une nuit d'été, ce beau cloître. Vous l'avez vu d'abord, sous le crépuscule fiévreux de la lune des morts, et ensuite, tout étincelant de la musique de Meyerbeer. Vous avez admiré ces arceaux gothiques, ces grêles colonnades, l'herbe de ces dalles sonores, la mousse qui grimpe sur le beau visage de ces pâles statues enveloppées de leur robe traînante. C'est en effet le même cloître, c'est le même aspect. Mais peut-on comparer la toile peinte à de vieilles et saintes pierres? Qu'ont-ils fait d'ailleurs nos décorateurs d'opéra des deux autels et du clocher que soutiennent ces quatre pilastres? Et de la tour romane à trois étages, et de toutes ces fines colonnettes qui sentent leur 12e siècle, d'une île-lieu, et surtout de ce beau portail, tout chargé de ces innombrables figurines. Comme aussi, ne cherchez pas la croix de pierre où s'agenouille la gentille Alice. Cette croix n'est pas un Saint-Trophime. Elle s'élève sur les hauteurs du Havre, dans le cimetière de l'abbaye de Graville. Non, une fois dans Arles, ce n'est pas de ces antiques murailles que je veux vous parler. Non, ces Romains, ces évêques de cet empire qui s'en va en laissant de si nobles vestiges, cette croyance qui se fonde par de si grands miracles, ce n'est pas là seulement tout ce qui nous frappe dans ces murs. Tenez, madame, regardez. À chaque porte, à chaque fenêtre, chastement entr'ouverte, sur les bords du Rhône grondeur, sous les vieux arbres, dans les églises où elle prie d'une façon charmante. Voyez-vous, admirez-vous ces belles filles, à l'œil si noir, à la peau si blanche, au maintien si noble. Elles ont tout à fait le geste, le sourire, la dignité des jeunes grandes dames romaines. Elles savent qu'elles sont belles par droit de naissance. Elles ont soin de leur beauté, comme la ville a soin de ses arènes, par un orgueil national, bien entendu. Et cette beauté dont elles sont fières à si juste titre, elles la parent de leur mieux, simplement, noblement, avec une bonne grâce unie et charmante. Des pieds à la tête, il n'y a rien à reprendre. Remarquez, je vous prie, ce bas bien tiré sur cette jambe mignonne. Ce pied vivement attaché à la jambe et cette main au bras, et comme le bras se replie noblement à l'ombre naissante de cette gorge que recouvre le plus fin mouchoir. Dans leurs vêtements, tout est simple et naturel, comme dans leur beauté. Point de couleur tranchée, des robes noires et du linge blanc, noir, moins blanc cependant que leur blanc visage. Leurs cheveux sont immenses, touffus, de cette belle couleur noire par laquelle le soleil a passé, et c'est à peine si ce large velours les peut couvrir. Ce velours est la seule coquetterie apparente de ces coquettes personnes. Il est de toutes couleurs, noir, rouge, nacarat. Les manchettes, elles en ont toutes. Elles sont invariablement de la toile la plus fine, et avec tout cela, des sourires ingénus, des regards honnêtes, une assurance calme. Ah bah, les antiquaires, ils travaillent la nuit et le jour à étudier des misères, Ils perdent la vue sur des inscriptions effacées. Ils ramassent dans la poussière des temps toutes sortes de débris pour nous prouver que les Romains ont passé par là. Oui, certes, les Romains ont passé par là, avec des Romaines. Les princes ont passé par là, tenant par la main les princesses de la jeunesse. Les uns et les autres, ils sont venus respirer ce noble sang qui n'a pas encore menti à son origine illustre. Belle fille qui passait si légère avec vos 18 ans et votre antique origine, vous êtes certainement le plus fier héritage et le don le plus précieux que nous aient laissé les Césars. Au reste, tous ces conquérants passagers ont laissé ce qu'ils ont pu dans ces contrées trop voisines de l'Italie pour n'être pas quelquefois l'Italie. Charles Martel, qui a brisé tant de choses, comme c'était son métier et comme son devoir le voulait, a laissé en ces lieux une race de petits chevaux qui descendent, dit-on, des chevaux que montaient les Sarrasins avant leur défaite. Mais ces chevaux arabes n'ont pas tenu autant que les filles romaines. Les jeunes filles ioniennes sont aussi belles qu'au premier jour. Sur l'échelle des êtres rêvés ou créés, elles tiennent le milieu entre les Parisiennes et la Vénus d'Arles. Les chevaux des fiers Sarrasins sont devenus d'horribles petites bêtes qui tiennent le milieu entre l'âne et le mulet. Il était nuit quand nous avons traversé la ville d'Aix, si fière aujourd'hui d'avoir donné le jour à cet élégant et passionné plébéien d'une si haute éloquence, d'un si grand courage, ferme et honnête volonté qui a déjà renversé tant d'obstacles. De pareils hommes sont les oracles de l'avenir. Tout vivant qu'ils sont encore, on voudrait voir la maison où ils sont nés, le gazon qu'ils ont foulé, le coin du ciel où ils ont deviné leur étoile, cachée derrière l'étoile éblouissante de l'empereur. Mais nous verrons cela plus tard. Hâtons-nous, car voici notre grand orage qui va nous reprendre. Hâtons-nous, car au point du jour, nous verrons Marseille. Voici Marseille. Mais dans cet admirable coin de terre qui a été longtemps une terre grecque et longtemps une terre romaine, ne cherchez aucun vestige de la Grèce ou de l'Italie. Marseille est uniquement et tout à fait une ville française. Elle a l'esprit, l'activité, le courage, l'énergie, le bon sens de la France. Elle s'inquiète peu d'art et de poésie. Elle sait bien qu'elle n'a pas été placée là pour rêver, mais pour agir. Aussi échappe-t-elle aux antiquaires et aux touristes. Aussi méprise-t-elle de tout son cœur ces méchantes petites reliques à usage des villes qui n'ont rien à faire. Elle a renversé tout son passé. Elle ne vit que dans le présent. Elle a oublié ses origines. Elle ne veut pas remonter plus haut que la France. Elle sait toutes les langues. Elle parle toutes les labies. Elle connaît toutes les monnaies. Elle a le secret de toutes les mises marines. Elle est plus fière de son port que d'avoir produit l'Iliade. De cette belle nerf qu'elle domine, elle ne sait d'autre histoire, sinon ce que la mer emporte et ce qu'elle rapporte. C'est une ville qui chante victoire depuis le soir jusqu'au matin. Ne la dérangez pas. J'ai vu à Marseille un triste spectacle. Madame Dorval, cette âme en peine, était venue avec sa pacotille, bien usée depuis 5 ans, de drames modernes, et entre autres elle avait apporté dans son bagage Angelo tirant de Padoue. Vous savez comment elle joue la Tisbé, avec quel désespoir et combien de larmes touchantes. Elle paraît, elle est reçue avec acclamation, le parterre est heureux de la revoir, mais bientôt les transports font place au silence, le silence à l'ennui. Et le peuple de Marseille, avec son bon sens de chaque jour, ne veut pas supporter longtemps ce pêle-mêle de poisons, de contrepoisons, de portes secrètes, de mensonges. Et afin de concilier toutes choses, son dédain pour le drame et son admiration pour l'actrice, Ils applaudissent la grande comédienne avec fureur et ils sifflent en même temps, de toute leur force, le drame malencontreux. Ma foi, vive le bon sens, il n'y a que cela pour bien juger les œuvres de l'esprit. Quelle rage a-t-on, je vous le demande, de s'arrêter dans tous les lieux où il y a quelque souffrance à voir? Pourquoi ne pas laisser de côté ces misères qu'on ne peut soulager, les larmes et les crimes, la prison et l'hôpital? Te trouves donc-tu trop heureux, toi qui voyages? Mais non, il faut obéir à l'instinct qui nous pousse malgré vous à tout voir. D'ailleurs, le bagne a été si fort à la mode pendant 10 ans qu'en bonne littérature, il n'est guère permis de ne pas lui faire une petite visite. Ainsi, à peine arrivés à Toulon, on nous mène au bagne. Et vous entrez avec un grand effroi, mais bientôt, tout entier à un spectacle si nouveau, vous admirez ce vaste espace, cette mer emprisonnée et co-ébéissante, ces travaux immenses, ces détails infinis. Ceci vu, nous avons enfin cherché les Vorsans. Hélas, ces tristes costumes, ces tristes chaînes, ce bruit de fer, cet accouplement forcé, cette contrainte dans le travail, tout cela, il faut bien le dire, disparaît dans le bruit et dans le mouvement du port. On ne songe pas au crime ni à la peine. On regarde, on se retourne, on étudie. On va d'un défaut à un autre détail. On visite ces vieux vaisseaux impotents, debout après tant de combats, et qui portent encore dans leurs flancs les boulets qui les ont blessés. On veut voir de la cale au dernier point, le vaisseau en construction, machine innocente encore, bientôt achevée, et alors, citadelle vivante, qui va partir toute chargée de palmes et de gloire. On comprend de pareils spectacles à ces forces lentement bercrées sur un coin de la mer par des bandits accouplés l'un à l'autre, on comprend ce que c'est qu'un grand peuple. Et lorsqu'enfin on laisse tomber un regard de pitié sur les forçats du bagne, savez-vous pourquoi on les trouve à plaindre? Oh, ce n'est pas pour leur misère, pour les coups, pour les chaînes, pour la peine, pour le désespoir. C'est pour l'ignorance où ils sont. Ils ne savent pas ce qui se fait autour d'eux, ni pourquoi ce soudain redoublement de travail, ni d'où vient ce vaisseau qu'ils réparent, ni où va cette frégate qu'ils construisent, ni d'où vient ce vaisseau qu'ils réparent. Ils ne savent rien, ils n'entendent rien, ils sont retranchés du peuple, retranchés de ses joies et de ses douleurs. Mais ma foi, pourquoi nous attendrir? Et qui faire? À chacun sa peine, à chacun sa joie. Songez donc que l'Italie nous attend, que je vais la voir, qu'elle est toute proche, ma transparente et chantante vision. L'Italie! Oh, c'est qu'aussi sa tête est si belle, son geste est si charmant, son regard est si tendre, son œil si noir, sa robe est si peu attachée. Elle vous montre son épaule brune avec tant de complaisance et d'orgueil. Je vous fais grâce du chemin et de l'impatience et des vallons et des montagnes et du cirque de Fréjus caché dans l'herbe. Je suis bon pour vous. Je vous mène à Nice en droite ligne. Mais s'il vous plaît, après cette course haletante, reposez-vous quelque peu sur ces divines hauteurs. Ciel, que la nuit est belle! Dans quelle splendide clarté s'enveloppe l'Italie! Que l'air du soir est rempli de parfums et d'harmonie! Au pied de cette haute terrasse où nous marchons lentement, la mer italienne, la mer d'Ionie, cette mer qui conduisait du golfe de Naples à la ville d'Athènes, du Vésuve au Parthénon, nous accompagne de son doux et phosphorescent murmure. C'est alors ou jamais le moment de se rappeler les plus beaux vers des poètes, les drames les plus touchants, les passions les plus saintes, les rêves de la 20e année qui reviennent en foule au murmure de cette mer, à la clarté de ses étoiles, au bruit charmant qui tombe de ces montagnes éclatantes. Devant nous passent, comme autant d'ombres, de pâles jeunes gens, des jeunes filles moribondes. Ils sont venus là, ces pauvres malades, pour se rattacher à la vie, à la jeunesse, à ces deux trésors qui s'enfuient de leur poitrine brisée. Dans le lointain, une voix fraîche et pure, quelques belles voix guéries par le vent, embaumées, qui se respirent en ces lieux, chantent doucement la complainte de la Desdémone à d'Othello. C'est encore la mer, mais elle est calme. C'est le même ciel, mais il est pur. Et c'est peut-être au fond de ce jeune cœur qui chante la même passion, mais elle dort. Il faut bien cependant que ce soit là l'œuvre souveraine d'un grand génie pour que cette romance d'Othello, séparée du drame, ait encore un grand retentissement dans votre âme et dans les lointains attentifs de la montagne et des flots. Le son des cloches d'un jour de fête vint bientôt remplacer cette première nuit de l'Italie. Le soleil se montre radieux et comme un conquérant légitime qui s'empare de ses domaines aux acclamations universelles. En même temps, le bruit reparaît dans les rues de la ville, et avec le bruit, le mouvement. Les soldats, réveillés, sortent de leurs casernes au fruit de la musique. Dans toute église, dans toute chapelle, la prière éclate, non pas cette prière du bout des lèvres de nos belles dames parisiennes, une prière timide et qui se cache dans l'ombre. La prière italienne monte tout droit et fièrement jusqu'au ciel. Elle parle à haute voix, elle se met à genoux devant tous, dans les rues, au grand soleil. Elle se frappe la poitrine de ses deux mains. Oh, il faut les entendre chanter leurs complaintes, ces heureux chrétiens. On dirait d'une lamentation de Jérémie hurlée sous les murs croulants de Babylone. Il faut les voir marcher en procession dans l'admirable pêle-mêle de cette immense raison dominicale. Vous parlez d'égalité, de fraternité. Mais l'égalité, la fraternité, les voici qui passent, protégées par la même bannière. L'évêque, le diacre, l'enfant de cœur, le mendiant qui étale ses plaies, la noble dame qui étale ses diamants et ses perles, la cohue du peuple, les pieds nus, le capitaine chargé de sa cuirasse, le mendiant et le gouverneur, le forçat libéré et le magistrat qui l'a châtié, ils marchent tous à cette heure, les uns près des autres, chantant à l'envi, dans un cœur unanime, les saintes litanies. Le lendemain au matin, de bonne heure, nous entrons dans cet admirable sentier sur les Apennins, appelé la rivière de Gênes. Figurez-vous que vous passez en revue la terre et le ciel dans leurs plus doux aspects. Ce grand bleu nous éblouit et nous charme. Les douces vapeurs du matin s'arrêtent à nos pieds. Le soleil brille là-haut d'un vif éclat. Pardonnez-moi si c'est toujours la même description, mais c'est toujours le même délire. Où montez-vous? Dieu le sait, que vous importe. Montez encore, montez toujours. Ne dirait-on pas que la montagne s'étend sous vos pieds, comme ferait une plaine chargée d'ombrages et de murmures? Voyez, mais la culture est partout, comme est partout la poésie. Le roc même est devenu fertile. Le torrent dompté travaille le matin comme un père de famille dans son usine. Et le soir venu, il chante comme un jeune homme sous les fenêtres de sa maîtresse. Le sillon fertile gagne les hauteurs, enveloppé dans sa robe encore printanière, moitié verdure, moitié fleur. À vos pieds, sur vos têtes, à droite et à gauche, les blanches villas vous provoquent sous leurs verts ombrages orangés. Et à chaque pas, ce sont des surprises nouvelles. La montagne se présente à vous menaçante, hérissée, toute chargée de la cascade qui gronde. Vous cherchez d'un œil inquiet par quel sentier perdu vous tournerez cet obstacle. Et soudain, ô miracle, la montagne recule et vous fait place. Ou bien elle s'entr'ouvre devant vous, vous passez triomphant sous ses voûtes solennelles. Malheureusement, on a beau aller au pas, on a beau s'asseoir à chaque détour de la montagne, on a beau chercher à chaque instant une place favorable pour y dresser la tente d'Élie, celle de Moïse et sa propre tente, on a beau s'arrêter sur le bord de la mer pendant que les pêcheurs ramènent leurs grands filets tout remplis de l'abondante moisson, on ne peut pas aller de Nice à Gênes en plus de 2 jours. 3 heures suffisent à traverser le grand royaume de Monaco. À Oneglia, vous passez la nuit sur la montagne. C'est Nice encore, mais plus grande et plus calme. Cependant, nous fîmes si bien qu'il était nuit lorsque nous entrâmes dans Gênes, la ville de marbre, la ville des palais et des grands souvenirs, des grands peintres et des grands architectes. J'ai déjà parlé de Gênes et bien souvent, mais lorsqu'en me promenant sur les remparts, je viens à penser aux pages que j'ai écrites il y a 2 ans, qui donc y penserait sinon moi, je sens la rougeur me monter au front, tant je me trouve froid, ingrat, terne et peu éloquent à propos de cette merveille de l'Italie. Oui, la voilà encore une fois sous mes regards. Voilà le port, voilà les chefs-d'œuvre, voilà toutes ces grandeurs épanouies. Visitons encore une fois ces grands seigneurs hospitaliers, les Durazzo, les Brignoles, les Balbi, les Dornia. Que je vous revoie encore, jardins, fontaines, terrasses suspendues dans les airs, beaux marbres aux couleurs infinies, chefs-d'œuvre sans nombre du Corrège, de Léonard de Vinci, de Paris, Bourbon, du guide de Van Dyck et d'Holbein, chefs-d'œuvre dignement abrités dans les maisons royales élevées sur cette mer par Galea Salessi, Barthélemy, Bianco, Tagliafico et tant d'autres. Le palais Balbi, antique s'il en fut, s'était paré de toute la grâce, de toute la jeunesse, de tout le bonheur qu'apporte avec elle la jeune fille mariée au jeune homme qu'elle aime. Aussi la vieille maison avait-elle un air de fête inaccoutumée. Seulement toute une partie du palais est consacrée à la vieille mère reste morne, silencieuse et sévère comme autrefois. Dans les jardins d'Oria, un homme de la douane veille à la porte du Doria. Dans les jardins d'Oria, l'herbe a cessé de pousser. Les rosiers ont été taillés par une main secourable. Les vieux arbres ont été émondés. Et déjà, les marbres des allées se débarrassent de leur mousse épaisse. Bien plus, oh, quelle joie! L'écusson des maîtres reparaît au fronton du noble édifice. Le Doria est attendu, le Doria va revenir. L'aigle à deux têtes le précède, et comment séparer longtemps ces deux grands noms, Gênes et Doria? Revenez cependant, revenez, qui que vous soyez, vous qui portez encore ce grand nom qui a été le signal de la liberté de tout un peuple. Revenez, car pour quelques fleurs qui vont se montrer de nouveau dans votre maison de la ville, votre maison des champs est en grand désordre. Savez-vous que l'avenue de votre château est encombrée de vignes grimpantes? Savez-vous que le vent a emporté le toit de la maison? Que les murailles gémissent et se dépouillent chaque jour des derniers vestiges de leurs fresques anéanties? Que vos tableaux ont été achetés par le spéculateur, que vos beaux meubles ont été vendus à l'encan. Accourez, accourez, prince Doria, si vous voulez rapporter à vos orangers des fruits et des fleurs, le mouvement et la simplicité à vos os, et quelques pas de jeunes femmes et d'enfants rieurs sur le sable de vos désertes allées. Hâtez-vous! Dieu est grand et le soleil est puissant sans doute, mais ni Dieu ni le soleil ne sauraient tout faire, ne sauraient rétablir malgré lui la grandeur de Doria. Et vous quittez Gênes, tout comme vous avez quitté Nice, en traversant la montagne. Aussi, ce nouveau chemin-là s'appelle la rivière d'Orient. C'est tout à fait le même aspect, même village, même cri de joie, même beauté, même grandeur dans le paysage. Et toujours et à chaque instant, c'est de belles mers qui vous servent de cortège royal. Seulement, à Chiavari, le soir, notre mère m'a fait mine d'être en colère. Mais figurez-vous la colère d'un bel enfant qui sourit même au milieu de ses larmes. Dans le lointain éclate le golfe de la Spezia. Plus loin se présente un torrent, la Magra. Et nos Italiens, nous voyant arriver de lever les mains au ciel. Le torrent était terrible, il roulait des montagnes. Il a été profond, il était perfide. Nous marcherons à la mort, à coup sûr. Oh, les poètes! De braves moines étaient assis sur le rivage, la besace pleine et les mains jointes, et ils attendaient patiemment que toute la Magra fût écoulée. « Eh bien, m'écriai-je, le sort en est jeté, nous passerons. »« Qu'à cela ne tienne, Excellence, » dirent les bateliers. Et les voilà à l'eau qui traîne la barque. Ce pénible torrent avait tout au plus assez d'eau pour nous porter. Au reste, il ne faut pas trop vouloir à la Magra de ces admirables histoires de danger de précipice. Ce torrent qu'il faut traiter sans respect fait vivre de temps à autre, lorsqu'il fait sa grosse voix, les hôteliers de la rive droite et le seigneur Bibolini, l'hôtelier de la rive gauche. Rien n'était plus facile et plus dans les goûts de sa majesté le roi de Sardaigne que de jeter un pont sur cette terrible Magra, mais le roi de Sardaigne n'a pas voulu déplaire au seigneur Bibolini. Parlez-moi des rois absolus pour avoir de ces complaisances-là. Mais silence, soyons recueillis et attentifs. En fait de royaume, en voici un qui est pour moi, après la France, le plus beau royaume de ce monde, le royaume de Luc. Ce beau pays s'annonce de la façon la plus verdoyante et champêtre. Vous marchez à travers toutes sortes de prairies chargées d'arbres, et la pluie qui tombe depuis le matin a ranimé toute cette verdure, balayé ces beaux sentiers et rendu le mouvement et le murmure à tous ces ruisseaux jaseurs. Mais la pluie en Italie, mais c'est le voile transparent qui cache le soleil. Ainsi vous allez de la montagne à la vallée, de la vallée à la plaine, inquiet, ému, heureux, et le cœur vous bat bien fort. Et pourquoi ce grand bâton, je vous prie? Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce tout petit royaume du bon Dieu un tout petit coin de terre qui est à vous, que le hasard vous a donné, que vous n'avez pas vu encore, et parce que vous allez le voir. Cependant, madame, rendez-moi cette justice que pendant 2 grandes années, j'ai noblement supporté ma fortune. J'ai mieux fait que la supporter, je n'y ai pas songé plus de 8 jours chaque année, quand il y avait ici grand soleil, grand labeur, grand tumulte et force livre nouveau. Alors je m'écriais, comme notre poète, « Oh, mon petit coin de terre, quand te verrai-je? Horus quando te aspiciam? M'y voilà donc. Marchons avec précaution, de peur que mon pas trop hâté ne fasse fuir mon domaine dans le nuage. » À la fin, la ville capitale se présente à nos regards. Elle est là-bas, fièrement retranchée dans ses remparts de gazon et de tilleul. Ces beaux arbres, ce sont les forts détachés de la ville. C'est de belles sources. Voilà les fossés qui la protègent. Ces vignes grimpantes, ce sont les murailles, les bastions et les ouvrages avancés. Ce jour-là, la ville de Luc était en fête, c'est-à-dire qu'à la fête de chaque jour s'ajoutait une fête nouvelle. Les courses de chevaux venaient à peine de finir. Le bar de la ville renvoyait à peine ses danseuses. Le dernier concert remplissait l'air de ses mélodieux accords, et les plus grands noms de l'Italie se ruaient dans l'heureuse ville. Une princesse aimée de la Russie, La princesse Hélène, noble dame, venait à peine de quitter le duché. Moi, à mon tour, je me hâte. Cet homme si calme pendant 2 ans, il est toute impatience et tout feu. À combien de liesses sommes-nous des bains de Luc? Dis-je à l'hôte. Oh, vous y serez dans 2 heures, me dit-il. Entre-nous donc, et du même cas, me voilà parti pour mon château. Cette fois encore, la scène change. De riante qu'elle est-elle, devient austère. En effet, pour aller aux bains de Luc, il vous faut traverser 5 ou 6 montagnes d'une physionomie toute allemande. Une rivière assez peu paisible coupe en deux cet entassement de verdure. La rivière occupe le bas-fond du vallon. Elle gronde, elle s'élance, elle écume, elle s'irrite tout à l'aise. Nul n'y prend garde. On dirait quelqu'une de ces puissances sans pouvoir de la Chambre des députés que chacun laisse hurler et que personne n'écoute. Le sentier va, çà et là, en zigzag, un peu au hasard, comme un honnête sentier qui ne mène à rien, sinon à la fête et au plaisir, quand, tout à coup, par un beau pont précédé d'une avenue de vieux arbres, vous pénétrez dans une gorge de montagne. Oh, contenez-vous, mon cœur! Voilà les bains de Luc. Tenez, cette grande maison au bout du pont, c'est l'hostellerie du seigneur Panini, le maître de Séan, on peut le dire. Sa maison est tout un village d'Anglais et d'Allemands, et tout à côté la vallée que vous voyez. C'est le palais des jeux. Le jeu est en effet pour le seigneur Panini, le bienfaiteur des bains de Luc. Le jeu a tracé ces beaux sentiers, il a jeté ce beau pont, il a arrondi la vallée. Il a donné de l'espace et de l'air à ce beau petit coin de terre. Enfin, il s'est élevé à lui-même dans cette place difficile, ce vaste palais où l'on dirait qu'un roi va venir. Dans cette maison royale, rien ne manque. Vaste salon de lecture où l'on peut lire le journal à jour ouvert. Même les folies les plus violentes. Vaste salon de bal. Qui le soir n'est jamais sans un peu de musique, un peu de danse, un peu d'épaules nues, un peu d'esprit, un peu d'amour. Un jardin de 20 pieds, vaste pour ce lieu. Et enfin, une modeste petite roulette qui apporte un peu d'or sur cette heureuse terre où l'or est si rare. En un mot, il y a de tout à ces bains de Luc, même des bains tout en marbre. Même une eau sulfureuse qui guérit sans peine toutes les maladies que peut guérir l'art moderne. Et tout cela est si frais, si mignon, si charmant, si joli, si reposé, si calme. Cependant, je n'étais pas content, encore une chose manquait à ma joie. Je voulais voir ma maison, la maison du hasard, cette fameuse Palazzina Lazzarini, qui m'a fait tant d'ennemis mortels. Ce grand problème que j'avais inventé, disait-on, pour me faire électeur, membre de la Chambre des députés et pair de France. Mais ma maison, où est-elle? Il faut bien que je la devine, il faut bien que je la trouve tout seul, car le moyen d'aller demander à cet homme qui passe, mon ami, où est ma maison, s'il vous plaît? Cependant, autour de moi, les maisons ne manquaient pas, mais fi donc, est-ce que je puis me contenter de ces chaumières? C'est un palais que m'a donné le hasard. Il me faut un palais. Le duc de Luc lui-même, ce Bourbon d'Espagne, Bourbon par le sang, Bourbon par le goût et par l'élégance, n'a qu'une simple maison des champs aux bains de Luc. Oh, ma foi! Je parie encore tout ce que vous voudrez. Tenez, tout là-haut, à côté du jeu et dominant la vallée. Voici ma palazzina, mais je la reconnais à sa forêt de 4 acacias. Ainsi posée sur la colline, dominée par les bains et dominant la vallée, l'aimable petite maison se donne de petits airs penchés qui sont à mourir de rire. Elle a été bâtie avec soin et surtout avec une recherche plus qu'italienne par un paresseux d'Italien qui est mort de fatigue après avoir accompli cette œuvre immense. Ma maison est située entre ma terrasse aux acacias et mon jardin, qui est beaucoup, mais beaucoup plus grand que votre salon, lorsque je suis seul à vous raconter si heureusement les toutes petites misères de ma vie. Dans ce jardin, prenez garde de vous heurter. Vous avez à votre droite un bosquet de lauriers. Oh non, ce n'est pas moi qui l'ai planté. Et à votre gauche, un bosquet de roses. Et dans le fond de la grotte, oui, il y a une grotte, l'eau coule à grand bruit. Et des deux côtés, vous avez des lacs jaillissants, comme nous en avons vu au palais Doria, ni plus ni moins. Certes, il fallut me voir faisant gravement en 3 pas le tour de mes domaines. Quant à la maison, voici comment elle se compose. Mais je vous avertis qu'elle n'est pas à louer ni à vendre, et que je la garde l'an prochain pour recevoir tout ce que j'aime. Le rez-de-chaussée contient la salle à manger, les cuisines et 2 fontaines. Le premier étage, oui, nous avons 2 étages et un grenier, est distribué à merveille. Et si vous saviez quel beau salon dont la vue se perd tout au loin. La maison, toute magnifique que je l'ai vue, est petite et modeste. Sans trop d'efforts de générosité, les envieux que je puis avoir, qui n'en a pas, me pardonneraient cette bonne fortune. Tout petit qu'il est, cependant, mon palais de Luc renfermait un illustre membre de la pairie anglaise, sa femme, ses enfants, toute sa famille. Ils étaient venus là, les uns les autres, pour y passer 5 ou 6 mois de calme et de repos. La dame avait apporté avec elle ses tableaux et sa tapisserie commencée, le lord ses revues et ses livres, et ses enfants leurs plus beaux jouets, les servantes leurs plus beaux habits. La maison se ressentait à merveille de pareils hôtes. Elle s'était parée tant qu'elle avait pu de ce bien-être inutile, de ce luxe élégant, de ces souvenirs de la patrie, jetés çà et là, sur les murailles, sur les meubles, par un heureux hasard. Même vous, madame, qui êtes grand-mère déjà, vous qui êtes entourée d'une si charmante famille d'enfants jaseurs, ces bibelots et roses aux caquets joyeux comme leurs pensées, vous ne sauriez croire combien les jolis enfants que j'ai trouvés là ont embelli notre maison. Le petit garçon surtout, un morveux, tout animé de l'enthousiasme de ses 5 ans qui venaient de commencer. Il est venu à nous tendant la main et sa joue. Il portait un manteau d'évêque violet et il disait gravement la messe. J'avais peur d'abord que ce ne fût une messe protestante, mais bon, mais non. Et quand le petit évêque fut retourné à son hôtel, j'eus le plaisir de l'entendre nous dire Dominus vobiscum, et j'eus l'honneur de lui répliquer Et cum spiritu tuo, à quoi il répondit par une bénédiction que j'acceptais bien pieusement. Et quoi? La bénédiction de l'enfant n'est-elle pas aussi bonne et aussi sainte que celle du vieillard? Et le soir de ce grand jour, j'étais de retour dans la capitale de mon royaume. J'allais voir, dans une belle et grande salle tout éclairée à Giorno, l'opéra nouveau du prince Poniatowski, Procida. Le prince Poniatowski vient d'avoir 25 ans. Bellini n'a pas, que je sache, un meilleur disciple dans toute l'Europe. Il y a dans cet opéra de Procida de bouillants accès de colère et de désespoir, mais aussi que d'amour, que de plaintes touchantes. C'est Ronconi qui chante le rôle principal. Ronconi, figurez-vous, Duprez à ses débuts de l'opéra, mais Duprez avec sa voix quand elle était jeune et sonore, et son pas brisé par ses abominables efforts, auquel pas une poitrine humaine ne saurait résister bien longtemps. À la fin de l'opéra, le public enchanté a voulu revoir le jeune et noble maestro. Le prince Poniatowski a reparu, et c'était plaisir de l'entendre applaudir si franchement par tant de belles Italiennes à l'œil ardent, aux épaules brillantes dont la salle était remplie. Quelle fête! Rien que de les voir, ces jeunes femmes d'un si noble sang. Quelle musique de les entendre vous parler avec les plus admirables câlineries de la terre. Rien n'est à comparer parmi nos plaisirs de chaque soir à cette soirée italienne. Non, rien ne ressemble dans nos froides et insipides assemblées à cette franche bonne grâce, à ces honnêtes sourires, à ce complet oubli de chaque femme pour sa beauté. Petit royaume, dites-vous, le duc de Luc, petit royaume, il est vrai, mais royaume intelligent, savant, amoureux des beaux-arts. Petit prince, sans doute, mais petit prince qui porte l'un des plus grands noms de l'Europe, petit-fils de Louis XIV, un Bourbon d'Espagne, fils de roi qui l'on peut dire comme Horace à Mécène. Triena regum progenies, descendant des rois d'Étrurie. Un jeune homme du plus noble cœur, de la plus exquise politesse, si affable que le dernier paysan de son royaume le peut accoster, lui dit « Soverino, je paye 2 sols d'impôt, est-ce juste ?» Et lui, alors, il donna son humble sujet de quoi payer son impôt pendant 20 ans. Ainsi, il vit parmi ses livres, parmi ses sujets, aimé et respecté, bien qu'il soit peut-être le plus pauvre de ce pauvre royaume. Ah, celui-là, parlez-lui de la France, il la sait par cœur. Parlez-lui des beaux-arts, il est versé dans tous les beaux-arts. Venu au monde avec toutes les passions des fils de rois, il a conservé ses nobles passions, il leur a obéi tant qu'il a pu. Puis, un beau jour, il a renoncé tout d'un coup à ses coûteuses passions, qui ne sont plus permises qu'aux hommes riches de nos jours. C'est ainsi que cette belle et riche galerie, composée par les soins de son Altesse royale, le duc de Luc, achetée à ses frais pour laquelle il avait arrangé une aile de son palais, hélas, à l'heure où je vous parle, toute cette galerie est en vente. C'est même, en comptant la question d'Orient et ses guerres, qui s'agit dans le lointain, la plus sombre nouvelle de l'Italie. La galerie de Luc est en vente.
Heureuse terre, celle-là, pour qui est destinée de quelques tableaux célèbres, de quelques marbres glorieux, sont autant de questions sérieuses et solennelles. Quoi donc, la Madone de Raphaël, cette belle Vierge qui est la digne rivale, la rivale authentique et reconnue de la Madone della Sigliola, celle-là dont M. Ange, qui s'y connaît, car il est un peu de la famille, disait qu'elle n'avait rien à envier à ses sœurs les autres anges. Oui, elle-même, la Vierge au candélabre, elle a dit adieu à ce beau ciel pour lequel elle était faite. Encore un chef-d'œuvre de moins dans cette Italie, qui aime les chefs-d'œuvre avec une passion si bien sentie. Encore une Vierge de Raphaël qui s'en va pour ne plus revenir. Certes, l'Italie a raison de pleurer la plus belle de ses plus nobles filles, mais ce n'est pas nous qui la voudrions consoler. Cependant, parce que son Altesse royale, le duc de Luc, est obligé de se séparer de ses chefs-d'œuvre, qui représentent une grande partie de sa fortune, est-ce bien là une raison, même une raison italienne, pour l'accabler de reproches? Ce prince, si bienveillant et si bon, d'un esprit si distingué et si fin, affable et loyal comme il l'est, pouvait-il s'attendre de bonne foi à tant de récriminations cruelles? Peu s'en faut que dans les autres parties de l'Italie, on ne l'appelle un tyran, lui le plus aimable des aimables tyrans de l'Italie, parce qu'il n'est plus assez riche pour garder les belles toiles qui le rendaient si heureux et si fier. Eh, mais alors, que dirait-on si, lui, de son côté, il accablait de ses reproches les tyrans ses confrères, parce qu'ils n'ont pas été assez riches pour acheter ces mêmes tableaux qu'il leur a proposés bien avant qu'ils se fût décidé à les offrir aux autres princes de l'Europe et même à ceux qui ne sont pas des princes. Car hélas, par cette incroyable démocratie qui nous déborde, quand chacun se peut dire à soi-même Te voilà roi, Macbeth. Il n'y a plus que les très nobles riches qui soient assez heureux pour pouvoir payer les chefs-d'œuvre de ce qu'ils valent. Que de fois, une vente publique où sont en jeu quelques-unes de ces rares merveilles dont l'Europe entière sait les noms, arrivent d'un côté les rois, les princes, les républiques, les royaumes, timides acheteurs, pendant que de l'autre côté se tient le valet de chambre de quelques Rothschild. Presque toujours, c'est le valet de chambre qui, à la fin de la vente, emporte sous son bras le chef-d'œuvre tant débattu, ce chef-d'œuvre qui, entre les mains d'un roi ou d'un peuple, appartenait un peu à tout le monde, et que personne ne revoit plus. Ceux qui ont eu l'honneur d'approcher le prince de Luc, et qui peuvent dire avec quelle passion éclairée et sincère « Son Altesse aime les beaux-arts », cela seulement pourrait dire que la nécessité de sa main de fer a seule fermé ce beau musée, ouvert à tous d'une si hospitalière façon. Mais si le duché de Luc est peut-être le plus frais, le plus limpide, le plus charmant des petits royaumes, en revanche, il en est peut-être le plus pauvre. Dans ce calme et paisible domaine où tout est repos, fraîcheur et verdure, où l'herbe pousse dans les fossés du château qui ne dédaigne pas cette humble récolte, même avec les habitudes et le cœur d'un grand prince, il est difficile d'en conserver toujours les allures. Tous les accessoires des existences royales, les vieux monuments, les marbres, les tableaux, l'armée stipendieuse et glorieuse des artistes, n'appartiennent plus de nos jours qu'aux grands seigneurs assez riches pour les payer dignement. Le temps est passé où les princes de la maison d'État et de Ferrare et les Médicis eux-mêmes avaient à leur solde avare, et souvent pour rien, peu d'argent, les plus grands peintres, les plus grands poètes, les habiles sculpteurs, les plus excellents architectes de l'Europe au XVIe siècle. Aujourd'hui, chaque vers d'un poète populaire est d'un prix inestimable. Chaque tableau d'un maître illustre présente une fortune. Les musiciens eux-mêmes, qui ont été de pauvres diables, bien plus longtemps que les autres artistes, leurs confrères, ont singulièrement augmenté le prix de leur génie. À ces causes, il n'est plus possible d'être un mécène à bon marché. Il n'est plus possible d'encourager les beaux-arts et de n'être pas immensément riche. À peine a-t-on le droit de les aimer. Et d'ailleurs, comme la possession des chefs-d'œuvre a cela d'étrange et de singulier, qu'elle vous pousse toujours et malgré vous à acheter de nouveau de belles choses, comme un beau tableau appelle un beau tableau, aussi puissamment mais plus honnêtement sans doute qu'un louis d'or appelle un louis d'or, il arrive qu'après avoir lutté longtemps, après s'être imposé d'immenses sacrifices, l'amateur le plus passionné des beaux-arts finit par s'avouer un jour à lui-même qu'il ne peut pas aller plus loin, qu'il est allé trop loin déjà, et qu'il lui est impossible non seulement d'acheter de nouvelles toiles, mais même de garder toutes celles qu'il a achetées déjà. En haut et en bas de l'échelle des heureux, cette histoire est la même histoire. Par exemple, quel est l'amateur de beaux livres parmi ceux que nous connaissons qui ne se soit pas vu obligé de vendre une partie de ses livres pour sauver le reste? Une fois arrivé à cette révélation suprême, l'homme sage, s'il est un simple particulier, a parfaitement le droit de pousser jusqu'au bout la noble passion qui l'anime et de se ruiner de fond en comble. Mais l'amateur, qui est le maître d'un royaume, quelque petit que vous supposiez son royaume, n'a d'autre parti à prendre qu'à rompre tout d'un coup avec cette passion pour les chefs-d'œuvre. C'en est fait, il y renonce tout de suite pour n'être pas tenté d'appeler à son aide quelques-uns de ses moyens d'avoir de l'argent que les princes souverains ont toujours en leur puissance. Sans contredit, c'est fort beau d'avoir à soi une galerie de tableaux dont bien des capitales de l'Europe seraient fières. Mais cela est encore plus beau, mille fois, de sortir le matin de son palais sans garde, de se promener à pied dans les champs de son duché, d'être salué par chacun et par tous, et de se dire à chaque pas « Oh, je n'ai plus de tableau, c'est vrai, mais à coup sûr, pas un de ces arpents de terre si admirablement cultivés ne sera surchargé d'un centime additionnel. Ainsi a fait le prince de Luc. Son Altesse a lutté jusqu'à la fin contre la mauvaise fortune, et elle ne s'est arrêtée que lorsqu'il lui a été impossible d'aller plus loin. Aujourd'hui, entreprendre un musée de vieux tableaux, c'est une tâche que bien peu de rois en Europe, même les plus riches, oseraient entreprendre. Sa Majesté le roi de Bavière elle-même, malgré tant de ressources en tout genre, va lentement dans l'exécution de cette œuvre impossible. À plus forte raison, le prince d'un petit duché toscan, dont la principauté doit retourner au grand-duc de Toscane et qui lui-même est attendu dans un avenir certain par ses deux beaux et riches duchés de Parme et de Plaisance, à plus forte raison, aussi un Bourbon d'Espagne, les Bourbons les plus malheureux et les plus pauvres de la maison de Bourbon, même en comptant Madame la Duchesse de Berry, qui elle aussi a vendu ses Van Dyck et ses Thiburg. N'avez-vous pas entendu dire qu'autrefois il y avait en France la galerie d'Orléans, splendide entre toutes les galeries princières? Et la Révolution française a dispersé la galerie d'Orléans. C'est la Révolution d'Espagne qui disperse la galerie de Luc. Il n'y a pas encore une année que rien n'annonçait dans le palais du duc de Luc que le musée serait vendu. Au contraire, la plus belle partie de ce palais, qui fut le palais d'Elisa Bonaparte, c'était le musée. Le prince, dans son ardeur toute espagnole, avait fait construire une vaste galerie à la plus noble place de sa maison, et déjà, dans cette galerie et dans les cadres magnifiques, sous un jour admirable, vous pouviez admirer les trois Caraches, les Fra Bartolomeo, l'affaire Durer, le Baroccio, le Dominicain, le Gérardot, le Guerchin, toutes ces belles toiles dont la renommée est grande dans toute l'Italie. Quant à la Vierge au candélabre de Raphaël, l'admirable et sainte Madone, même dans les musées du prince de Luc, n'avait pas de place qui lui fût propre. On la venait admirer de Saint-Pierre de Rome, même après avoir contemplé la Transfiguration. On venait pour la voir du palais Pitti, même après s'être agenouillé devant la Madone à la chaise, devant la Madone du voyage. Chacun la pouvait contempler, face à face, visage contre visage, contre cœur, pour ainsi dire. Et elle, la noble dame, bien assurée de sa beauté éternelle, elle posait complaisamment devant ceux qui la voulaient étudier avec respect, avec soumission, avec amour. Donc, cette admirable galerie est en vente tout entière. Le sacrifice sera complet, car pas une seule toile, grande ou petite, n'a été conservée. Pas un seul de ces chefs-d'œuvre n'a été mis à part. Leur noble maître leur a dit adieu à tous les beaux fleurons de sa couronne ducale. Il leur a dit adieu d'un œil sec, mais son cœur saignait bien fort. Hélas! Or, c'est le cas encore une fois de réciter, vers par vers, les glogues de Virgile, quand le pasteur Ménalque s'en va au loin chercher un peu d'ombre de verdure pour son troupeau. Nos patriam fugimus. Nous quittons, disent les chefs-d'œuvre, nous quittons la terre natale, l'air limpide, le ciel bleu, le grand soleil, la passion italienne, le regard italien. Nous quittons les bois, les prairies, les fontaines, et mieux encore les voûtes dorées des glaces brillantes, les murailles princières. Nous allons, Dieu sait dans quels exils, dans quelles régions, dans quelles brumes épaisses, ou chez quels bourgeois. Certes, quelque chose de pareil se sera passé dans l'âme du prince, se séparant de ses flatteurs honnêtes et respectés de sa fortune, et lui-même il aura gémi sur leur exil. Cette galerie du château du Calaluc est assez célèbre pour que nous n'en fassions pas l'histoire. Elle était un des plus riches débris de cet éphémère royaume d'Étrurie, qui fut un des premiers trônes élevés par Bonaparte, premier consul, comme s'il eût voulu se faire la main à ce métier tout nouveau pour lui et qu'il devait apprendre si vite. Dans ce souvenir de ces tableaux de Luc, on retrouve au premier rang un tableau important du Père Ugin, le prédécesseur et le maître de Raphaël, un Gherardo degli Notti, le plus bel ouvrage de Gherardo. Le peintre illustre l'avait fait pour le prince Giustiniani, qui fut aussi le protecteur des trois Caraches. Nous autres Français, parmi les maîtres de l'école italienne, tout resplendissant de santé et de lumière, à côté de l'embrasement poétique de Gherardo, nous étions fiers de saluer le massacre des innocents par Nicolas Poussin. C'était là une des perles les plus admirées de la galerie de Lucien Bonaparte, quand le neveu promettait de marcher sur les traces de son oncle, le cardinal Fesch. Mais le neveu s'est un peu arrêté en chemin, comme un homme sage qu'il était, pendant que l'oncle a marché jusqu'à la fin de sa passion, comme un homme riche qu'il était. Plusieurs tableaux du Dominicain de Frédéric Baroccio, de Simone de Pesaro, la Samaritaine de Guergine et, de sa plus belle manière, un enfant Jésus de Luini, dont les œuvres sont rares. Un Fra Bartolomeo, remarqué même à Lucques, où le grand peintre a laissé tant de marques de son passage. Une naissance du Christ dans les tables par Mazzolino de Ferrare. Un Hercule par Alexandre Allegri, le digne frère du peintre de la terrible Judith du Palais Pitti. Oh, je vois encore sa robe jaune et ses terribles yeux noirs. Une Sainte Famille de Rubens, un Saint François de Ciccoli, signé par l'auteur. Hylas, enlevé par les nymphes, charmante composition de Furini. Et d'autres tableaux vénitiens, hollandais, allemands, de toutes les époques des beaux-arts, compose le fond principal de cette galerie. Avec un peu de soin et de travail, vous pourriez suivre la filiation de ces belles toiles. Chacune d'elles a son histoire authentique, sa filiation reconnue. Les unes ont été commandées aux peintres eux-mêmes par des personnages historiques. Le contrat de vente et d'achat a été conservé. Les autres arrivent en droite ligne de Rome, de Sienne, de Livourne, de Bologne, d'Espagne, de Gênes, de Flandre. La galerie de Giustiniani, la galerie du marquis Borcella, du comte Givizzani en ont fourni plusieurs. La galerie Cittadella, la galerie Esterhazy, la galerie Sardi, la galerie Joseph Bonaparte, quelques-uns, et aussi la galerie Buovici, un Lucquois de la vieille roche, sans oublier la galerie du prince Borghese, dont le nom se retrouve dans tous les musées de l'Europe. Les églises et les couvents de l'Italie ont aussi cédé quelques-uns de leurs tableaux à la galerie de Lucques. Par exemple, le couvent des nonnes de San Giovannetto, l'église de San Frigliano, qui ne sont plus que des ruines, protègent de leurs souvenirs vénérés un tableau d'Annibal Garrache et un tableau de Francia, comme si le long de la reine d'Étrurie se rattache plusieurs des tableaux de cette galerie, commencés par elle. Triste destinée des monarchies modernes, les trônes des rois durent encore moins que les galeries qu'ils ont commencées. Mais la galerie et le trône, tout s'en va à la fin, hélas. Nous avons conservé, pour le nommer le dernier, le plus rare et le plus excellent tableau de cette galerie. Si nous mettons à part ici Vierge au candélabre, ce tableau admirable, eh bien c'est le Christ de François Francia. Voilà un homme, voilà un artiste des plus belles époques de l'art. Esprit, génie, fidélité à ses maîtres, constance, courage, honneur et fortune, gloire et renommée, rien ne manque à celui-là. Il était né à Bologne, au milieu de la philosophie et de la théologie, à Moncey, à cette place savante. Et tout d'abord, il avait été un grand orfèvre dans le temps des grands orfèvres, puis un célèbre graveur en médaille, et puis il avait traité l'émail comme un maître. C'est pourtant le même homme dont quelques tableaux, et entre autres le Christ de Lucques, se peuvent comparer aux plus beaux ouvrages de Raphaël en personne. Quand Francesco eut achevé ce tableau qui est à Lucques, cette sainte Anne, cette Vierge, ce Christ mort. Toute l'Italie du XVIe siècle battit des mains et poussa des cris de triomphe. En ce temps-là, Raphaël était à Rome, à recevoir les hommages universels, comme s'il se fût appelé Léon X. À ce sujet, le Sanzio écrit une lettre de louange à Francia, cet autre Raphaël, qui donnait à Bologne le mouvement et la vie. Et même quand lui, Raphaël, il eut achevé la Sainte-Cécile qui est à Bologne, il chargea Francia de placer ce chef-d'œuvre dans un jour convenable. « En même temps, si vous trouvez quelque chose à réparer, faites-le mettre, » disait Raphaël. Et à peine eut-il ouvert la caisse qui contenait la Sainte-Cécile, Francia tomba à genoux en versant d'abondantes larmes. Le tableau fut placé par ses mains tremblantes non loin du tombeau de la Sainte Elena dell'Olio. Et 8 jours après, sa mort est digne de sa vie, Francia était mort, écrasé par la contemplation de la Sainte Cécile de Raphaël. Telle est cette galerie du prince de Luc. Elle peut ajouter de grandes richesses à celle que possède le musée du Louvre. Sans nous réjouir du deuil de l'Italie, nous avons le droit d'en profiter. Nous avons dans cette affaire des nations rivales qui sont plus riches que nous peut-être, mais qui aiment les chefs-d'œuvre moins que nous avons déjà perdu à des ventes célèbres. L'André del Sarto à M. Lafitte, le congrès de Münster au duc de Berry, l'amiraltum de Rembrandt et surtout l'admirable Claude Lorrain qui appartenait à M. Erard. À cette heure, le musée du Louvre ne possède pas un seul Raphaël digne d'être comparé à la Vierge au candélabre. Songez aussi que c'est là désormais la seule manière dont nous puissions nous procurer ces merveilles. La victoire ne donne pas, elle nous prête, pour nous reprendre à l'instant même ce qu'elle nous prête. Et alors que de regrets, que de douleurs, que de places vides dans les musées et du conquérant. Monsieur Thiers, oh, qui est bien quand il s'y met le plus admirable et le plus charmant enthousiaste des beaux-arts, qui les aime avec la passion d'un grand seigneur, mais d'un grand seigneur qui n'est pas assez riche pour payer les chefs-d'œuvre. Monsieur Thiers, m'entendant un jour lui raconter cette histoire des tableaux de mon prince, le duc de Luc, « Et que sont devenus, me dit-il, le Raphaël et le Francia ?»« Mon Dieu, répondis-je, à l'heure qu'il est, par cette pluvieuse nuit de l'automne, vous ne devineriez jamais, avec tout votre génie, en quel triste lieu la Vierge de Raphaël repose sa belle tête, dans quelles horribles ténèbres est plongé cet insolent Francesco. Figurez-vous que Raphaël et Francesco sont déposés à la douane. Ils sont là les malheureux, exilés au milieu des soieries, des sucres, des flanelles, des savons, des indigos et des tabacs. Ils sont là, ne comprenant rien à ces sombres voûtes, à ces bruits étranges, à ces horribles odeurs. C'est encore et toujours l'églogue de Virgile que je vous citais tout à l'heure. « Ah, Silicein muda, conixa reliquit. » À ces mots, je vis M. Thiers tout ému. Il écoutait mon récit avec une profonde stupeur. Serait-ce par hasard à la douane de France qu'on aurait retenu Raphaël et Francia? À la douane de Paris, monsieur le ministre. La douane, oui, de ses grosses mains stupides, a pris au collet le grand Francesco. Elle a retenu la Sainte Vierge divine par le pan de sa robe. Et elle leur a demandé leur passeport, comme si ces grandes beautés ne devaient pas passer partout dans un pays comme la France et gouverné par M. Thiers. Ici, le ministre se leva, il demanda son chapeau et il allait pour sortir. Notez bien qu'il était 1 heure du matin. « Et où allez-vous ? » lui dit une petite voix toute puissante. « Où allez-vous si tard ?»« Je vais à la douane, » reprit-il. « Je vais délivrer le Francesco et le Raphaël. » En effet, le lendemain, nos deux chefs-d'œuvre, rendus au soleil et au pâle français, il est vrai, mais enfin, nous donnons notre soleil tel que nous l'avons, faisaient leur entrée triomphale dans cette étroite et misérable auberge qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères. Là, grâce au maître qui l'habitait, les deux exilés furent entourés d'égards et de respect. Les plus grands seigneurs de Paris, c'est-à-dire les hommes les plus intelligents, venaient en toute hâte pour saluer les deux chefs-d'œuvre. Des hommes de tous les partis pour rendre leur devoir au Raphaël, au Francia, sont accourus à l'hôtel du ministère des Affaires étrangères, bien étonnés de les y voir. Et plus d'une fois, M. Thiers, au milieu de ces immenses travaux dont personne n'a l'idée, au plus fort de cette ardente improvisation qui ne se repose ni la nuit ni le jour, venait saluer le Francia et le Raphaël, qu'il était heureux et fier de les recevoir, qu'il était inquiet de ses illustres hôtes, comme il en faisait les honneurs à la France, quel démenti il donnait à la douane, comme il se prosternait devant le Francia. Jamais vous n'avez vu de passion plus vraie et mieux sentie. Eh bien, Monsieur Thiers a laissé partir la Vierge de Raphaël. Seigneur, lui disait-elle, l'adorable Vierge, comme disait cette belle Hortense Mazarin à Louis XIV, vous êtes roi, vous m'aimez et je pars. Monsieur Thiers a même laissé partir le Francia. Non pas sans regret, je vous assure, non pas sans être bien consulté lui-même pour savoir si enfin, à la rigueur, il n'achèterait pas cette dernière toile qui lui faisait tant d'envie, et il y a renoncé. C'est qu'en effet, celui-là aussi, il est véritablement un grand seigneur, moins la richesse. Si cela qu'il accuse tout bas, cela qui lui reproche une fortune imaginaire, qui parle si bien de l'or entassé dans les prétendus coffres de M. Thiers, si cela avait pu le voir, comme je l'ai vu, lui le maître, résistant à la tentation du Francia, et se contentant enfin de quelques copies maladroites, cela aurait bien compris, et plus qu'on ne saurait le dire, tout le désintéressement d'un ministre tout-puissant qui, en fin de compte, ne se trouve pas assez riche pour donner 20 000 francs d'un chef-d'œuvre qui lui convient.